OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Job chapitre 16. Job chapitre 16. Job chapitre 16, versets 1 à 22. 16, autrement dit, tout le chapitre complet. Job prit la parole et dit, « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne sont point calmées. Si je me tais, en quoi serait-elle moindre? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Il ouvre la bouche pour me dévorer. Il m'insulte et me frappe les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les cieux élevés. Mes amis se jouent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis, car le nombre de mes années touche à son terme, je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. » Alors j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « Les trois désirs de Job dans sa réplique à l'attaque d'Éliphaz ». Alors, la semaine dernière, on avait vu que Éliphaz, qui était le plus vieux des amis de Job, avait considéré l'ensemble de ce que Job avait déclaré concernant son innocence et concernant toutes ces choses-là. Et ça ne cadrait pas avec sa philosophie à lui. Sa philosophie, on le répète, c'était assez simple. Les gens de cette époque-là, ils n'avaient pas encore toute la révélation au complet comme nous. Et eux, ils avaient l'attitude de croire que s'il t'arrivait un malheur, la maladie, tu perdais ta propriété, tes enfants. Et ils voyaient ça comme une punition de l'Éternel. Donc, s'il t'arrive quelque chose dans ta vie dans lequel tu souffres, c'est très certainement parce que tu as péché. Alors, eux, ils voyaient ça comme ça. Et Job, il a toujours défendu son point de vue comme de quoi ce qui arrivait, c'est pas parce qu'il avait mené une vie de désordre ou qui s'était éloigné de Dieu. Il avait toujours maintenu son innocence. Non pas qu'il prétendait qu'il n'avait jamais péché, mais ce qu'il disait, c'est que j'ai toujours voulu garder le cap sur l'obéissance à Dieu. Je n'ai pas tombé dans le péché, je n'ai pas fait de manquement grave à la justice de Dieu. Et on a vu que Éliphaz et ses trois amis, à tour de rôle, sont allés contre lui, lui ont dit « ça se peut pas que tu sois comme ça et que tu n'as pas péché ». En gros, c'est à peu près ça qu'ils disaient. Et Job lui maintenait son innocence. Là, on est dans ce qu'on appelle le deuxième cycle. Il y a trois cycles de discours dans Job. Le premier, les trois amis parlent, un à tour de rôle, le plus vieux. Après ça, ils parlent chacun leur tour. Et Job répond toujours à leur affaire. Là, on est dans le deuxième cycle. Autrement dit, Éliphaz a parlé et Bildad a parlé, Tsophar a parlé. Et là, c'est Éliphaz qui revient à la charge, et là, on sent qu'il est agacé un peu. Il est comme irrité de voir que Job ne semble pas vouloir adopter son point de vue et il a pris une attitude un petit peu plus dure. On voit dans le deuxième cycle, les amis de Job vont avoir une attitude envers Job qui va s'endurcir. Ils vont le considérer encore avec plus de dureté. Alors c'est vraiment, on sent un durcissement dans le ton, une irritation qui est plus élevée, plus de véhémence, des propos qui sont plus accusateurs et les propos qui sont remplis de frustration, d'orgueil et d'obstination. Autrement dit, il garde son point de vue, peu importe ce que Job dit, « Je suis innocent, non, j'ai pas fait ça », et il continue de dire « Ça se peut pas que tu sois dans cet état-là, il faut que tu aies péché, sinon tu seras pas là ». Et là, on voit le ton monte. Alors, Eliphaz, dans le chapitre 15 qu'on a vu la semaine dernière, il avait réattaqué Job en défendant et en maintenant sa thèse avec acharnement. Il croit que Job mérite son sort, il croit que Job est un hypocrite et qu'il ne veut pas se repentir. Pour lui, c'est comme grave. Il est aussi persuadé que Job refuse obstinément de tenir compte de ses conseils et de la sagesse des anciens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, il a vraiment plaidé sa cause avec Job en disant non seulement mon expérience, mais comme s'il est allé l'expérience de tous ses pères avant lui pour dire « Garde, j'ai sûrement raison parce que tout le monde pense comme moi. » Et il a voulu mettre encore plus de pression sur le dos de Job pour qu'il change d'idée. Alors, il pensait que Job refusait obstinément de tenir compte de ses conseils et aussi des conseils des anciens. Mais, comme on l'a fait au cours de toutes les semaines, au cas qu'il y a quelqu'un qui écoute ça et qu'il n'a pas entendu, c'est important de se souvenir quel est le jugement de Dieu sur les interventions des trois amis. Parce que si on ne fait pas ça, à quelque part, on se rend compte que dans ce qu'ils disent, c'est pas toujours faux, mais le problème, c'est qu'ils font porter à Job des choses qu'il ne doit pas recevoir. C'est pas pour lui. Ça pourrait être vrai dans un autre cas, là, mais c'est pas pour lui. Alors, dans Job 42, on a vraiment qu'est-ce que Dieu pense des interventions des trois amis. Mais ça, il ne faut pas oublier que c'est à la fin. En Job 42, Job chapitre 42, on est presque rendu à la fin du livre, quand on va continuer le deuxième cycle des discours, après ça, on va avoir le troisième cycle des discours, on va avoir le jeune qui n'avait pas parlé, qui a décidé de parler, avant que le Seigneur intervienne. Là, le Seigneur va intervenir, va avoir toute une série. Ce qui est important de considérer dans Job, c'est que Job, il voulait avoir des réponses de Dieu. Pourquoi tu m'envoies ça? Je comprends pas. Et à la fin, on se rend compte que le Seigneur ne répond pas aux questions de Job. Il fait simplement lui poser des questions. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Puis il lui pose toute une série de questions qui a pour but de le ramener à l'humilité. Autrement dit, t'es un homme pécheur, puis t'as pas le droit de m'amener à la barre pour me demander des comptes sur de la manière dont j'agis avec les hommes. Autrement dit, en gros, c'est à peu près ça. Et là, Job se rend compte, après toutes les questions que Dieu lui pose, il se rend compte que, oui, il a voulu faire des choses, considérer des choses qui sont trop grandes pour lui, et là, il s'humilie, et il reconnaît sa faute devant l'Éternel. Mais ce qui est important, c'est de voir comment Dieu, ici, va considérer les trois interventions des amis de Job. Alors, ça dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, ça c'est après qu'il a eu posé toutes les questions. Il dit à Eliphaz de Téman. Eliphaz, c'est celui avec lequel Job est en train de parler. Eliphaz, on pense que c'était le plus vieux. Parce que dans la tradition des Orientaux, c'est toujours le plus vieux à qui on accorde la parole en premier. Il dit à Eliphaz de Téman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. » Autrement dit, l'Éternel n'approuve pas la manière dont ils ont essayé d'expliquer ce qui arrivait à Job. Nous, on a un gros avantage sur Job et sur leurs amis. Dès le début du chapitre, dès le début du livre de Job, Dieu nous explique qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Satan voulait démontrer à Dieu, « OK, tes enfants, ils te suivent, mais c'est parce que tu leur accordes des bénédictions, c'est parce que tu les protèges. » Il dit, « Enlève-leur leurs biens, enlève-leur la famille, enlève-leur tes bénédictions, et là, ils ne te suivront plus. » Puis il était bien sûr de son coup. Dieu lui accorde ce qu'il demande. « OK, on va enlever propriété. OK, on va enlever la santé. OK, on va voir si c'est possible, mais après que tout ça est enlevé, si c'est encore possible d'aimer Dieu. » Et on sait la conclusion, Job va en sortir victorieux, mais Job, lui, le problème, c'est que lui, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en arrière-scène. Pourquoi ça lui arrive? Parce que Satan veut prouver un point et Dieu lui sait. Dieu fait une confiance extraordinaire à son serviteur quand on y pense comme il faut, là. T'es un pécheur, faible, un peu comme nous, et il lui dit, oui, je vais tout enlever ça pour démontrer que même quand t'as pas ça, tu peux encore aimer Dieu. Il lui fait une confiance qui est désarmante, je trouve. Et il dit, et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alors Job, ici, après avoir entendu l'attaque qu'on a vue la semaine passée dans le chapitre 15, il est hautement frustré. On sait ce que c'est de frustré, hein? Il est affrustré d'aplomb, comme on dit. Cependant, il ne va pas reprendre tous les arguments d'Éliphaz pour les démolir un à un. Parce que si on regarderait, on reprendrait le chapitre 15, on verrait que Éliphaz avait différents arguments. Normalement, la façon de se défendre, ça aurait été de dire, « OK, on va regarder ce que tu as dit, on va regarder voir si c'est vrai. Est-ce que c'est la manière dont Job s'y prend pour répondre à Éliphaz? » Non, il ne s'y prend pas de cette façon-là. Il va plutôt choisir d'exprimer son désaccord avec ce qu'Éliphaz a dit et son mécontentement, puis il va choisir trois moyens. J'ai appelé la récrimination, la récapitulation et la revendication. Alors, ça correspond à trois divisions dans le livre. On va commencer par la récrimination. Versets 1 à 5. Si on s'en va dans un dictionnaire, moi, j'ai le Robert. J'ouvre mon Robert, je regarde ce que ça veut dire, récriminer. Récriminer, c'est manifester son contentement avec amertume et âpreté ou rudesse. Autrement dit, c'est dire « je ne suis pas content », puis tu le dis avec des mots qui sont durs. C'est ça, récriminer. C'est se plaindre de quelqu'un. Ici, donc, ce qui va arriver, c'est que Job va se plaindre de la tentative très inappropriée des trois amis pour essayer de le consoler. Une chose qu'il faut se rendre compte, c'est que les supposés consolateurs se sont transformés en tourmenteurs. Si vous vivriez quelque chose de difficile, bien difficile, puis que je vais vous voir, puis mon but en allant vous voir, c'est de vous consoler, mais que je suis tellement malhabile dans ma façon de présenter ma consolation, que au lieu de soulager votre souffrance, je l'augmente, c'est pas très intéressant. Parce que quand on a une épreuve, qu'on vit une épreuve, s'il y a une chose qu'on n'a pas besoin, c'est que quelqu'un vienne en ajouter par-dessus. On en a déjà plein notre chapeau. Alors, c'est ça qu'ils font. Les trois amis, ils ont des bonnes intentions, mais sont tellement les yeux comme ça, ils ne veulent pas voir autre chose, une autre possibilité que Dieu pourrait avoir donné à Job des épreuves, et ils ne veulent pas voir d'autres choses. Alors, quand on va relire les cinq premiers versets de Job 16. Alors, pour montrer que là, dans le fond, qu'est-ce que Job fait? Il veut manifester son mécontentement face non seulement à Éliphaz, mais à ses deux autres amis. Ça dit, Job prit la parole et dit, « J'ai souvent entendu pareille chose. » Autrement dit, il est en train de lui dire, « Tout ce que tu as dit, c'est des banalités.
des lieux communs. J'ai déjà entendu ça maintes et maintes fois. Il dit, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Autrement dit, c'était pas très encourageant pour les trois amis. Quand finiront ces discours en l'air? Autrement dit, en train de dire, vous dites n'importe quoi. Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Voyez-vous, Job n'est pas fou. Il sent que dans la manière de s'adresser à lui, du plus vieux, d'Éliphaz et des autres, il y a de l'irritation. On sait ce que c'est quand on est irrité, quand on parle à quelqu'un. Hein? Ça ne sort pas toi avec des bons mots, ça sort des fois avec des mots durs. Il dit, pourquoi que tes mots durs dans tes discours? Ben, c'est parce qu'il est frustré que l'autre n'accepte pas sa thèse. Dans le verset 4, il dit, « Moi aussi, je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place. Je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête. » Il est en train de dire, « C'est facile ce que vous venez de faire là, moi aussi, je suis capable de faire ça. » Après ça, dans le verset 5, « Je vous fortifierai de la bouche, je remuerai les lèvres pour vous soulager. » Autrement dit, il est en train de dire, « Peut-être que je serais capable de faire mieux que vous autres. » Alors ici, il se plaint dans les versets 1 et 2, d'avoir reçu un réconfort inapproprié. Il juge les propos des trois amis comme un ramassis de banalités, de préjugés et de lieux communs. Il considère leur aide comme étant dépourvue de sagesse et de bonté. Il considère les propos de ses supposés amis comme produisant des effets qui accentuent la douleur au lieu de l'alléger. Quand il dit « vous êtes des consolateurs fâcheux », c'est ça qui est l'idée en arrière de ça, c'est qu'au lieu de soulager ma misère, soulager ma douleur, vous l'accentuez. Ça fait encore plus mal qu'avant que vous interveniez. Alors, il voit ses amis comme étant de misérables consolateurs, d'où l'expression des consolateurs fâcheux. Ce sont des consolateurs fâcheux pour plusieurs raisons. Parce que leurs arguments sont remplis d'erreurs et de faussetés. T'as quoi l'erreur dans leur argumentation? Si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Est-ce que c'était vrai? Non, parce que selon le jugement même de Dieu, Job était intègre et droit et marchait dans ses voies. Ils ont aussi des vues erronées de Dieu et de ses voies providentielles. Et il utilise aussi des moyens impropres pour procurer du soulagement. Et ils échouent aussi dans l'identification de la source du confort. C'est où la source du confort? Si je veux aller voir quelqu'un, ou n'importe qui d'entre vous, vous voulez aller voir quelqu'un qui souffre. Vous savez qu'il peut souffrir pour des raisons physiques, peut souffrir pour des raisons psychologiques, peut souffrir pour des raisons spirituelles. Si vous allez le voir, il faut qu'à quelque part, vous alliez à la bonne source pour trouver le réconfort. C'est où la bonne source? Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand on veut consoler un chrétien, il n'y a pas vraiment d'autre moyen que de l'amener à la source de la consolation. C'est Christ. Il faut l'emmener vers Christ. Il faut l'emmener aussi soit dans les vérités de l'Évangile ou soit dans les vérités de la parole de Dieu. Vous avez donné une illustration récemment à la vie de Ravenhill, Leonard Ravenhill, qui avait tombé en bas d'un troisième étage d'un hôtel, puis il s'était fait brûler au deuxième ou troisième degré. Puis il dit qu'il a reçu tout un grand nombre de personnes qui sont venues pour lui témoigner de la sympathie. Puis ce qu'il dit dans son livre, c'est un peu ça. Un ramassis de banalité, oh, ça va bien aller, faites-en pas. Autrement dit, en québécois, on appelle ça des niaiseries. Il dit, sur tout le nombre de personnes qui sont venues me voir, il y en a seulement un qui m'a apporté du véritable réconfort. Et vers qui là, il l'a ramené? Vers Christ! Il l'a ramené vers Christ, il dit, c'est le seul qui m'a vraiment fait du bien. Parce qu'il m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Qui a relié la situation qu'il vivait à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ne t'oublie pas, il sait ce que tu vis, et ça lui a fait du bien, ça. Mais les autres, là, ils étaient tous considérés comme des encourageurs, qu'on pourrait dire, très fâcheux. Quand on dit le message de ce matin, ça devrait s'adresser à nous. Ça se peut pas qu'au cours d'une vie chrétienne, on n'ait pas à faire de la consolation autour de nous, à des amis, à des voisins, à des chrétiens qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Est-ce qu'on aimerait que ceux qui souffrent disent de nous, « Oh ben lui puis ses banalités. » On aimerait mieux qu'il touche vraiment notre cœur, qu'il nous amène à voir quelque chose en Jésus-Christ qui nous encouragerait vraiment. Est-ce que les Écritures nous donnent nous parlent des qualités nécessaires pour être un bon consolateur? Oui, on en prend au moins deux. La sagesse et l'amabilité. L'amabilité, ça veut dire que quand on s'adresse à quelqu'un qui souffre, il faut être bon de notre façon de l'aborder. Et la sagesse, ben, il faut savoir identifier le bon problème et d'amener la bonne solution. Puis souvent, c'est ça qui manque aux gens. Voyez-vous, dans le Proverbe 31, verset 6, ça dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Alors, ça sera vraiment les deux qualités les plus essentielles quand on veut amener. Alors, on peut prier avant d'aller essayer de tenter de consoler quelqu'un. Qu'est-ce qu'on se doit de faire selon vous? Aller devant Dieu et demander au Seigneur de nous donner de la sagesse et de nous donner aussi des paroles douces qui peuvent encourager la personne. Alors, le véritable consolateur, pour être efficace, doit pouvoir éprouver de l'authentique sympathie, pour l'éprouver. Est-ce que, si on regardait depuis le début, là, les trois consolateurs de Job, est-ce qu'ils ont vraiment manifesté de la sympathie pour Job? Non, ils étaient toujours en train de vouloir faire le lien, mais si tu vis ça, c'est parce que tu as péché. Alors, ils n'étaient pas vraiment sympathiques. Si on veut consoler quelqu'un qui souffre, faut d'abord avoir de l'empathie, de la sympathie envers la personne. On doit comprendre aussi, comme consolateur, quel est le sens et l'utilisation que le Seigneur fait des épreuves. On sait, en Romains, qu'il dit « Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors, il faut comprendre le principe, mais c'est facile de dire « Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». Savez-vous quand est-ce qu'on comprend vraiment le verset? C'est quand il nous arrive quelque chose de souffrant et que là, on reconnaît la main de Dieu dans le fait qu'il nous l'envoie et qu'au lieu de chialer, on dit « Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'envoies ça, c'est souffrant, mais je sais que tu le fais pour une bonne raison et je l'accepte et je le reçois avec joie. » Combien d'entre nous sont capables de faire ça? Moi, j'avoue que je ne l'ai pas fait très souvent. Alors, quand on pense qu'on connaît la signification de toute chose contribue au bien de celui qui aime Dieu, bien entendu, si le Seigneur m'envoie de la santé, si le Seigneur m'envoie de l'argent, là, je suis bien prêt à reconnaître que ça vient de Dieu. Ah, Seigneur, tu me bénis, tu m'envoies ci, tu m'envoies ça. Mais quand il t'envoie une épreuve qui fait mal, la maladie, une mortalité, quelque chose qui est douloureux, est-ce qu'on est capable de savoir que ça aussi, c'est une bénédiction? Là, c'est autre chose. Alors, le consolateur doit comprendre le sens et l'utilisation que le Seigneur fait des épreuves. Qu'est-ce qu'il peut faire avec une épreuve, le Seigneur? Éduquer? Il y a peut-être quelque chose à apprendre. On a peut-être quelque chose à apprendre. Il est en train de vous montrer que vous avez peut-être quelque chose à apprendre. Des fois, quand on veut apprendre quelque chose à un enfant, n'est-ce pas que des fois l'enfant peut trouver ça douloureux? C'est douloureux, des fois, l'apprentissage. Moi, je me souviens, en anglais, il disait, pour parler de la fessée, les Anglais disaient... The board of education on the seat of our understanding. Give him the board of education on the seat of our understanding. La board, c'est une planche. La planche de l'éducation sur le siège de la compréhension. Pas, voyez-vous le jeu de mots? J'aime bien ça. The board of education on the seat of our understanding. Ça voulait dire que, des fois, quand tu veux apprendre quelque chose à un enfant, Des fois, ça fait mal. Mais quand Dieu veut nous apprendre quelque chose à nous qui sommes aussi des enfants, il nous considère comme des enfants. Il utilise le mot « enfant ». On est des enfants. Alors, pour nous corriger, des fois, il utilise des moyens qui font bobo. Mais son but n'est pas de nous faire bobo. Son but, c'est de nous éduquer, de nous transformer, de nous faire croire, de nous faire grandir. Moi, je me souviens, un moment donné, quand j'étais jeune, il y avait un jeune homme. Mon frère, il devait avoir à peu près... Mon frère, le plus jeune, il devait avoir à peu près 11 ou 12 ans. Puis il y avait un fils d'un optométriste de la ville de Lac-Mégantic qui était... un optométriste. Moi, je d'origine de travailleur. Tu sais, vraiment un milieu très modeste, très, très pauvre. Et lui, ben, il était socialement plus élevé. Puis il avait fait une remarque désobligeante à mon frère sur ma mère. Et là, ça l'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mon frère, il l'a pas pris du tout. À que là, chaque fois que le jeune, il voulait, pour s'en retourner chez eux, il fallait qu'il passe devant chez moi. Puis mon frère, il attendait à chaque fois qu'il venait pour remonter de l'école. Il disait, toi, là, tu vas écouter. Puis lui, il faisait peur. Puis le jeune, il était obligé, des fois, de faire des téléphones. Quelqu'un vient de le chercher. Il était terrorisé. Mais ce que j'ai aimé de l'optométriste, à un moment donné, il est arrivé à la maison chez nous, il a cogné à la porte. Puis il avait son fils avec lui, de 11 ans. Et là, chez lui, il lui avait fait dire la raison pour laquelle mon frère courait après, puis il en voulait, puis il voulait le violenter un petit peu. Et là, le père, quand il a vu la raison, il a dit, tu t'es moqué de la mère de Rénal, maintenant tu vas venir avec moi, et on va rentrer chez Rénal, et tu vas t'excuser à Mme Longchamp, et tu vas t'excuser à Rénal d'avoir agi de la sorte. Pensez-vous que le jeune homme, il... Je suis certain, aujourd'hui, là, il doit être rendu à peu près de mon âge, le gars, là. Puis je suis certain qu'il s'en souvient encore. Quand on a des choses pareilles qui nous arrivent dans nos vies, on s'en souvient. Et ça fait quoi? Ça nous fait grandir. Parce que je suis à peu près certain que dans ses remarques envers les autres, il a dû dire, oh, je suis aussi bien de faire attention à ce que je dis parce que ça va m'arriver encore. Et moi, j'ai bien aimé parce que tu es un professionnel, il a pris la peine de venir chez nous pour faire ça. Alors, il voulait éduquer son fils. C'est pas à cause que tu es riche que tu peux te moquer des gens qui n'ont pas d'argent. Alors, c'est une leçon qu'il a dû apprendre à ses dépens, mais ça a dû coûter cher pour lui. Alors, des fois, c'est pour une raison d'éducation, des fois, c'est pour une raison de transformation, puis des fois, c'est pour une raison de croissance. Et une chose qui nous aide quand on veut aider quelqu'un qui souffre, c'est d'avoir déjà expérimenté que le Seigneur peut nous consoler. Si on l'a déjà expérimenté nous-mêmes et qu'on fait appel à la personne du Seigneur pour dire « le Seigneur peut alléger ta souffrance, peut te conduire, peut te faire sortir, ça aide. » Alors, si on a déjà expérimenté la vérité et la puissance des Écritures pour consoler notre cœur, bien, ça aide. Et aussi, si on a déjà observé et imité le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur la terre, il a guéri des personnes qui n'étaient pas nécessairement sauvées. Alors, il y a vraiment de la miséricorde, de la bonté. Et il a guéri et il a consolé. Regardez bien, dans Ésaïe 61, ça parle prophétiquement de la venue future de Christ. Et ça dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Il parle de Christ. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. » Oui, il y a trois verbes là-dedans qui sont importants. Guérir, délivrer, consoler. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ fait? Et c'est important parce que ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans Ésaïe. Quand Christ est venu sur la terre, une des premières choses qu'il a faites dans une synagogue, c'est de dire « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Il parlait de lui-même. Autrement dit, ce que vous entendez, là, est en train de s'accomplir devant vos yeux. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Et le verset, il ne s'arrête pas là, mais lui, il a arrêté là. Pensez-vous qu'il y a une raison? Parce qu'après ça, là, si tu continues le verset, « Et un jour de vengeance de notre Dieu. » Il n'était pas rendu là encore. Il était dans l'année de grâce. Ça dit « Pour publier l'année de grâce de l'Éternel. » Autrement dit, l'arrivée de Jésus-Christ était en train d'accomplir cette prophétie-là qui avait été dite dans l'Ancien Testament. Et il a arrêté. Bon, c'est pas un accident, là. Parce que le fait que le jour de vengeance, c'est quand le Seigneur va revenir. La première venue, c'était la grâce. La deuxième venue, ça va être le jugement. Il a pas fini le verset. Il l'a arrêté là, parce qu'il dit là, on est dans l'accomplissement de ce que les Écritures promettaient, la grâce de Dieu. Et aussi, dans le verset 3, il veut parler que leur consolation était inappropriée dans son expression. Il utilise des mots, verset 3, ça dit « finiront ses discours en l'air dans l'original, ça parle de souffle de vent. Autrement dit, ça n'a pas de valeur ce que vous dites là. C'est vain, c'est vide, c'est impuissant. Alors, bien sûr, les propos étaient prononcés sous l'effet de l'irritation. Parce que malgré les trois tentatives des trois amis qui ont venu un en arrière de l'autre pour essayer de dire « si tu souffres, c'est parce que tu as péché », puis qu'ils voyaient que Job acceptait pas ça, malgré tous leurs arguments, ils étaient véritablement irrités. Autre chose que je pense que le verset 3 nous montre, c'est quelle attitude on se doit d'avoir dans la consolation. Bien sûr, je pense que c'est celui de la patience et de ne jamais perdre le contrôle de notre tempérament. Si on essaye d'aider quelqu'un, il faut être patient. Et c'est vraiment pas le moment de perdre le contrôle de ton caractère devant quelqu'un qui est en grande souffrance. Vraiment pas le moment. Pourtant, des fois, ça peut arriver parce qu'il peut y avoir un certain acharnement à défendre une idée ou un point de vue. Puis malgré que tu lui as dit deux, trois fois, il n'a pas encore compris. Alors, la patience, c'est ça. Ceux qui sont professeurs ici, ils doivent savoir c'est quoi la patience. Il faut répéter, puis il ne faut pas perdre le contrôle de notre tempérament. Et avec une personne qui souffre, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et dans le verset 4 et 5, il y parle que les tentatives de consolation sont vraiment remplies de froideur, d'égoïsme et même de cruauté. Parce que dans leur déclaration, il y avait des manifestations de cruauté. Et quand on parle d'une tentative de consolation qui est contre-productive, tu pars, puis là, je vais aller aider un tel ou une telle. Et tu sors de là, puis là, la personne, elle vient te dire le lendemain, « Sais-tu ce que tu m'as dit hier? » Là? Ben, je souffre encore plus à cause de ce que tu m'as dit. Oh! Ça s'appelle un consolateur fâché. Est-ce que c'est le type de consolateur que nous voulons devenir? Je ne pense pas. Dans le verset 6 à 17, on a parlé de récrimination. Donc, au début du verset 1 à 5, il se plaint. Il se plaint de quoi? Il se plaint des discours de ses amis qui n'ont vraiment pas réussi à atteindre leur but. Mais dans le verset 6 à 17, quand on parle de récapituler, qu'est-ce qu'on fait quand on récapitule? Vouloir récapituler quelque chose, c'est reprendre ou se rappeler point par point quelque chose que l'on peut revoir dans sa globalité. On prend, disons qu'il recule à partir du moment où Dieu a fait périr ses enfants, enlever sa santé. Il veut récapituler, il veut voir, il veut rappeler à ses amis la souffrance qu'il a vécue. Donc, dans le verset 6, il parle de sa misère. Il dit, « Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi serait-elle moindre? » Autrement dit, il dit, « Peu importe la solution que je prends, si je me ferme la trappe, je souffre pareil, puis si je parle, vous ne m'écoutez pas, vous ne comprenez pas ce que je dis. Fait qu'il dit, je ne peux pas trouver du réconfort ni dans le silence, ni dans le fait que je parle. Il veut vraiment exprimer son désarroi total. Il ne trouve du soulagement ni dans le silence, ni dans la vive expression de sa douleur par les mots. Peu importe son choix, sa douleur demeure. Dans les versets 7 à 14, là, il va déplorer l'ensemble de la misère que Dieu permet qu'il arrive dans sa vie. Dans le verset 7, il va reconnaître que sa misère provient du Seigneur. Ça, c'est important, là, dans le cas de Job. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que Satan est dans la partie. Mais il sait quand même que, ultimement, c'est Dieu qui est la cause première de ce qui lui arrive. Parce qu'il dit, dans le verset 7, « Maintenant, hélas, il m'a épuisé. » Quand il dit « il », il parle de qui? Il parle de Dieu. « Il m'a épuisé. » Puis là, il parle de Dieu. Il dit « Tu as ravagé toute ma maison. » Ses enfants, ses biens, sa santé. Et là, il attribue ça à Dieu lui-même. Alors, les troubles de Job se sont accumulés et ils sont demeurés. Il a perdu sa famille, ses biens, sa santé physique, sa santé psychologique et spirituelle. Il s'est de plus aliéné sa propre femme. Qu'est-ce qu'elle avait dit, sa femme? « Maudit Dieu et meurt. » Quelle femme intelligente! Après ça, il avait aliéné son entourage. À un moment donné, dans le courant de livre de Job, il va dire, même ceux qui étaient le plus petit de mes serviteurs crachent sur moi aujourd'hui. Alors, autrement dit, tout le monde qui l'entourait, avant, il était comme respecté, comme une personne importante. Et là, il est comme méprisé même par le plus petit de ses serviteurs. Ça doit faire bobo, ça. Ça doit faire bobo. Après ça, et ses amis intimes. Donc, non seulement il y a tout son entourage, mais ces trois personnes qui sont supposées être ses amis, eux autres aussi, ils le méprisent. Fait que là, ça fait de la douleur accumulée pas mal. Alors, au lieu d'être un baume pour sa souffrance, les tentatives de consolation de ses trois amis se sont transformées en amertume et en une plus grande souffrance. Verset 8, là, il parle de son apparence physique. Il dit non seulement je reconnais que ma misère vient de Dieu, mais il dit dans le verset 8, « Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. » On a vu que depuis la quantité de temps qu'il est malade, il avait probablement beaucoup maigri. Et pour les anciens qui faisaient un lien entre le péché et la punition que Dieu t'envoyait, pour voir que quelqu'un avait beaucoup maigri, c'était comme une accusation. C'était comme ça qu'ils disent, « Ma maigreur se lève et m'accuse en face. » Même son apparence physique semble témoigner contre lui. Dans le verset 9, il perçoit aussi de la colère divine contre lui. Là, il dit, il parle de Dieu. Regardez bien les mots qu'il utilise. « Il me déchire. Il me poursuit dans sa fureur. » La fureur, c'est... Il accuse Dieu de choses assez graves. « Il grince des dents contre moi. » Là, on voit qu'il était un petit peu hors champ, on pourrait dire, un petit peu en dehors de la traque. « Il m'attaque et il me perce de son regard. » Alors, c'est vraiment il utilise des mots très agressifs pour parler de Dieu. Est-ce que c'est ça que Dieu est en train de faire avec lui? Qu'est-ce que ça nous montre sur notre comportement quand on souffre? On est porté à voir Dieu comme étant la cause de notre souffrance, mais on ne comprend pas qu'il peut y avoir du bien rattaché à ça. On voit juste le côté, pourquoi il me fait ça? Il me poursuit, il grince des dents contre moi. On ne comprend rien. Quand on est dans la souffrance, bien sûr, Satan se plaît à nous présenter une vision pervertie de Dieu. Il nous faut savoir que nous sommes rapidement disposés à adopter ce mensonge. Dans nos épreuves, nous devrions voir l'amour de Dieu et non sa colère. Mais quand on souffre, de voir de l'amour là-dedans, pas évident. C'est vraiment pas évident. On peut affirmer que de voir de l'amour dans la croix de nos épreuves nous aide à les vider de son amertume. Eh bien, j'ai gardé l'expression anglaise, c'est « To see love in a cross takes out all bitterness ». De voir de l'amour dans les croix que Dieu nous envoie, ça enlève des souffrances le côté amertume. Je la répète, « To see love in a cross takes out all bitterness ». Autrement dit, de voir de l'amour dans les croix que Dieu nous envoie, ça leur enlève leur amertume. Verset 10, il constate amèrement l'hostilité de ses amis. Il dit, ils ouvrent la bouche pour... Là, ici, on le voit que le « il » devient au pluriel. Donc, « il », s'il parle de ses amis, « ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent, ils me frappent les joues, ils s'acharnent auprès de moi. » Je pense qu'il parle un langage figuré. Je pense pas qu'il est en train de dire que ses amis lui ont frappé les joues. Mais ils lui ont dit des choses. Tu sais, des fois, on peut dire, quelqu'un, il m'a dit quelque chose, c'est comme s'il m'aurait donné une claque en pleine face. Ben ça, c'est à peu près ce qu'il est en train de leur dire. Il est en train de dire, vous agissez envers moi, c'est comme si vous m'auriez donné des claques en pleine face. Quand il dit, il m'insulte, il me frappe les joues. Je pense pas qu'ils ont vraiment fait ça, mais c'est une expression qu'ils utilisent pour parler de la violence de leurs propos à son égard. Alors, l'opposition et l'incompréhension de ses amis, jointes à ce que l'on pourrait appeler les froncements de sourcils de la Providence, n'est pas bien sûr une preuve de culpabilité ni du déplaisir divin. On reprend. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler dans notre vie les froncements des sourcils de la Providence? Tu sais, les froncements des sourcils, là, c'est comme si Dieu te regarderait et hein, il t'en veut, là. Franchement, des sorties de la Providence, c'est quand Dieu nous envoie des choses qui sont difficiles, des choses qui sont dures à accepter. Mais est-ce que c'est une preuve de culpabilité? Non. Est-ce que c'est une preuve que Dieu ne prend plus plaisir en toi? Non. Mais c'est ça qu'eux faisaient. Alors, il constate vraiment amèrement que ses amis sont hostiles envers lui et ils ne le comprennent pas. Verset 11. Dieu me livre à la merci des impies, il me précipite entre les mains des méchants. Quand on regarde les commentateurs, ils parlent de deux possibilités. Les méchants, c'est des personnes non converties autour de lui ou les anges méchants. Alors, il se sent comme étant la victime des méchants anges ou hommes. Alors, on dit que la sensation d'être abandonné de Dieu est la pire des souffrances. Quand Jésus, sur la croix, a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était, il se sentait abandonné de Dieu, mais est-ce qu'il faisait juste se sentir abandonné de Dieu ou s'il était véritablement abandonné de Dieu? Il était véritablement abandonné de Dieu parce que quand le Père a déversé la colère qu'il aurait dû déverser sur nous, sur son Fils, il était vraiment abandonné de Dieu. Mais pour le Fils, toutes les souffrances qu'il a vécues sur la terre, y compris la crucifixion, c'était moins souffrant que de se sentir abandonné de son Père. Mais on peut faire un parallèle avec nos propres vies. Quand on se sent abandonné de Dieu, c'est la pire des souffrances qu'on ne peut pas avoir. La pire. On ne peut pas avoir de souffrance plus intense que ça quand tu es persuadé que Dieu t'oublie, qu'il t'a abandonné. Verset 12, on parle de la soudaineté de son expérience qui alourdit sa peine. Quand quelque chose nous arrive puis que c'est imprévu, des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, on les voit venir. Ah, comme des signes avant-coureurs. Mais quand c'est soudain, tout, jour au lendemain, ça arrive, là. Alors, il dit, j'étais tranquille et il m'a secoué. Quand il parle de « il », il parle de qui? De Dieu. Il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme un but. Il parle de, comme les archers. Tirer sur moi comme un but. Il se sent comme ça face à Dieu. Alors, il sent que L'expérience qui lui arrive de façon soudaine, ça alourdit sa peine. Et dans les versets 13 et 14, il sent que le Seigneur lui fait la guerre impitoyablement. Y aurait-il quelque chose de plus souffrant pour nous que de sentir que le Seigneur nous fait la guerre? Parce que plus on comprend la grandeur de Dieu, si vraiment il rentre en guerre avec nous, on n'est pas sorti du bois, comme on dit. Regardez qu'il dit, « Ses traits m'environnent de toutes parts. » Quand on parle de traits, on parle de flèches. Il se sent comme si Dieu lui envoyait des flèches, mais pas un, de toutes parts. Il arrive de partout. Il me perce les reins sans pitié, il répand ma bile sur la terre, il me fait brèche sur brèche, il fond sur moi comme un guerrier. Alors il se sent attaqué comme si Dieu était une armée et qu'il tirait sur lui sur tous les bords, tous les côtés. C'est le même qu'il se sent dans son cœur. Il arrive parfois qu'il nous semble que Dieu a mis de côté toute sa miséricorde et ceci même avec les siens. La miséricorde, ça veut dire que Dieu prend pitié. Si on souffre intensément, puis on dit à Dieu, prends pitié, et qu'il ne semble pas venir une réponse, n'est-ce pas qu'on se sent comme ça? On pense que Dieu a mis sa miséricorde de côté, même pour les siens. Dans les versets 15 à 17, là, il va vraiment parler de son humiliation. Il dit, j'ai cousu un sac sur ma peau. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quand tu te couvrais d'un sac à cette époque-là, c'était vraiment une volonté de t'humilier, de reconnaître devant Dieu. Il dit, j'ai roulé ma tête dans la poussière. Là, la poussière et couvrir son corps d'un sac. Puis, dans le verset 16, il dit quelque chose d'important. Les pleurs ont altéré mon visage. Je ne sais pas si vous arrivez chez quelqu'un puis qui a pleuré beaucoup. Disons qu'il a pleuré 3 heures sans arrêter. Puis vous cognez à la porte chez eux. Est-ce que vous croyez que même si elle prend un gros sourire, tu n'avais pas montré qu'elle vient de traverser une période de souffrance que tu ne le verras pas? Non, on le voit. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, les pleurs. Il a tellement pleuré à cause de la perte de sa famille, la perte de ses biens, la perte de sa santé, que ça l'a altéré son visage. Son visage en est changé tellement il a pleuré. Puis là, autre chose, il sent que si Dieu n'intervient pas bientôt, il va mourir. Il dit, « L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis... » Voyez-vous, il revient encore avec son innocence. Il lâche pas, hein? Il est vraiment tenace, notre ami Job. Il dit, « Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. » Autrement dit, tu es en train de dire, « Je n'ai jamais demandé des choses qui sont mauvaises à Dieu. J'ai toujours voulu lui demander des choses qui étaient dans le sens de sa volonté. » Alors, il s'est profondément humilié dans le verset 15. Il a beaucoup pleuré et il attend la mort dans le verset 16. Et il est persuadé de son innocence et de la pureté de sa prière dans le verset 17. Alors, sa prière a toujours été, selon lui, sincère et sans hypocrisie. Il a toujours prié pour de bonnes choses et pour de bons motifs. Ses requêtes et son intercession voulaient toujours aller dans le sens de la volonté de Dieu. Il priait toujours dans une bonne disposition d'esprit et selon des sentiments nobles, sa prière ne s'adressait qu'au seul véritable Dieu. Il y a quelque chose d'intéressant ici, de la manière de Job se défend. Et là, passons, on tombe dans la troisième partie. On parle de revendication. Et là, il a commencé par se plaindre de ses amis, versets 1 à 5. Après ça, il a voulu passer en revue l'ensemble de ses souffrances pour dire à ses amis, « Hey, regardez, là, je souffre pas ordinaire. » Et après ça, vraiment, on sent que là, il veut se tourner vers Dieu. Autrement dit, c'est comme s'il était découragé de même plus essayer de plaider avec ses amis. Il veut que ce soit l'Éternel lui-même. Revendiquer quelque chose, c'est réclamer, c'est demander avec force. C'est ce que Job va faire maintenant ici. Il veut implorer Dieu et lui présenter une demande. Il fait 3 affaires. L'invocation, versets 18 et 19, dit « Ô terre, ne couvre point mon sang, que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les cieux élevés. » Tu es en train de dire qu'il n'aimerait pas mourir. Il fait référence, je pense, les commentateurs disent qu'il fait référence probablement à Caïn, quand il a tué son frère, puis le sang coulé sur la terre. Autrement dit, il est en train de dire, « Seigneur, ne permets pas que je meure avant que mon innocence ait été rétablie auprès de mes amis. » Puis là, il dit, « Ce que je dis sur mon innocence, j'ai un témoin. » Et c'est pas n'importe quel témoin. Parce qu'il dit, « Mon témoin est dans le ciel. » Il parle de Dieu. « Mon témoin est dans les lieux élevés. » Alors, Job invoque le Seigneur pour deux choses, que son innocence soit manifestée avant sa mort et que Dieu lui serve de témoin. Autrement dit, quand il dit qu'il n'a pas, « Je n'ai commis aucune violence, ma prière fait toujours », il est vraiment convaincu de son coup. Dans le verset 20, il fait un appel à Dieu. Donc, il a commencé par une invocation. Après ça, il fait un appel dans le verset 20. Il dit, « Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. » Comme s'il avait passé pleurer. Il veut demander à Dieu lui-même, « Seigneur, tu es mon témoin. Tu sais que je me suis jamais voulu m'éloigner de toi, etc. » Il plaide sa cause. Job est pleinement conscient des limites de la consolation et de la justice humaine. Il croit que ses yeux remplis de larmes sincères sont les plus éloquentes plaidoiries auprès de Dieu. Le nom de Dieu utilisé dans cette partie-là des Écritures, quand on va voir dans l'hébreu, c'est Eloah. Eloah, c'est le Dieu suprême, le Tout-Puissant. Alors, il reconnaît qu'il y a une personne qui est dans le ciel, qui connaît toute sa vie, toute sa vie de pensée, sa vie de parole, sa vie d'action. Il connaît toute chose sur lui. Il dit, « Lui, il est mon témoin. » Eloah. Et il s'adresse à lui avec foi et anticipation que Eloah va agir. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il y a une verset intéressant là qui est dit. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Regardez bien. « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. » Bien entendu, toute la terre, ça comprend ta vie. « Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Est-ce que le cœur de Job était tout entier à lui? Bien entendu. L'Éternel le sait que Job n'a pas mené une vie de péché et que l'épreuve qui lui arrive n'est pas le résultat d'un éloignement de lui-même. Et dans le verset 21 et 22, il termine en faisant une supplication à Dieu. Il dit, « Oh, si l'homme... » J'ai pris la version Martin parce que je trouve qu'elle est plus claire dans l'expression du verset 21 et 22. Il dit, « Oh, si l'homme raisonnait avec Dieu comme un homme avec son intime ami, car les années de mon compte vont finir et j'entre dans un sentier d'où je ne reviendrai plus. » Autrement dit, il sent qu'il est sur le bord de la mort et que là, c'est vraiment la supplication ultime qui dit à Dieu, « Si je pouvais raisonner avec toi comme un homme raisonne avec son ami. » Parce qu'il dit, « Les années de mon compte, autrement dit, je t'en veux de crever. J'aimerais ça que tu... » Mais on sait que Dieu va répondre. Mais lui, il ne sait pas encore que Dieu va répondre. Job, il ne cherche pas à établir qu'il est sans péché, mais plutôt cherche à établir son entière sincérité. Pas la même chose. Il ne faut pas confondre les deux. Il n'a jamais dit qu'il était sans péché. Il a dit qu'il menait sa vie de façon intègre et droite. Alors, sa raison pour agir ainsi est qu'il croit qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps avant sa mort. Nous pouvons apprendre de Job qu'il faut se préparer à affronter la mort. Qu'est-ce qu'il faut faire pour affronter la mort? Il faut se préparer. Premièrement, il faut s'assurer que nous sommes véritablement réconciliés avec Dieu. Si tu sais que tu vas... Disons que tu iras voir le médecin, puis le médecin dirait, dans une semaine, tu vas mourir, je suis sûr. N'est-ce pas qu'il faut que tu sois sûr que quand tu vas traverser, tu sois réconcilié avec le Seigneur? Et est-ce que tu as fait le maximum aussi pour essayer d'obtenir le salut de tes bien-aimés? Dans le bulletin cette semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont lu l'histoire, parlaient de la prière jusqu'au bout. Elle m'a frappé, ça, cette expression-là. La prière jusqu'au bout. Et le personnage qu'on parle dans le bulletin faisait ça, la prière jusqu'au bout. M. Fraser, en France. En France, en Chine. La prière jusqu'au bout, ça veut dire que souvent, comme personne qui prie, on ne va pas, on ne persévère pas assez. C'est ça qu'il veut dire par la prière jusqu'au bout. Tu ne te rends pas jusqu'au bout, tu peux aller. Parce que souvent, on va prier pour le salut d'une personne ou pour quelque chose, et après un certain temps, on dirait, ben là, il ne répond pas, donc j'abandonne. Erreur monumentale. Il faut que tu continues. Tu pries jusqu'au bout. On n'est pas habitué à faire ça. Moi, ça m'a frappé quand j'ai lu ça. J'ai dit, oh, est-ce que je prie toujours jusqu'au bout? Tu sais, souvent, on va prier, même, on va prendre juste l'exemple de nos enfants, on prie pour nos enfants. Après quelques années, on dirait qu'à cause qu'on n'a pas reçu la réponse, on prie moins souvent. On ne se devrait jamais de faire ça. Prier avec encore plus d'intensité, plus, tu lâches jamais. C'est ça que le Seigneur veut, parce que quand on regarde l'enseignement de la prière, le Seigneur veut qu'on prie jusqu'au bout. Il veut sentir que qu'est-ce qu'on demande, on le veut vraiment. Puis c'est lui qui est le maître d'accorder oui ou non, mais je pense qu'il veut qu'on se rende jusque-là. Il veut aussi qu'avant qu'on meure, que nos affaires soient en ordre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il a dit à Ézéchias, tu vas mourir bientôt, prépare tes affaires, mets tes affaires de ta maison en ordre. Et là, Ézéchias s'est mis à pleurer. Il a demandé, puis il a donné, le Seigneur, il a donné 15 ans. Mais quand même, l'idée qu'on se doit de mettre nos affaires en ordre, je parlais avec Lucie cette semaine, il dit, bon, faudrait bien, là, commencer. Alors, je suis rendu, faudrait bien que je mette nos affaires en ordre. Qu'est-ce qui arrive si je décède? Qu'est-ce qui arrive? À qui je donne ci? À qui je donne ça? Si on ne le fait pas, la personne qui se ramasse quand c'est pas préparé, elle est dans le trouble, comme on dit. Alors, faut s'assurer aussi qu'avant de mourir, on soit en paix avec tous les hommes. Quand on se met à s'examiner, est-ce qu'il n'y a pas encore des petites crottes sur le cœur qui restent avec un tel qui nous a blessés, avec un tel qui nous a fait du mal? Quand, avant de partir, je pense que ce serait sage de faire ça, s'assurer qu'on n'a pas aucun problème avec aucun homme. Et s'assurer aussi qu'on s'est déchargé de nos devoirs envers notre famille, nos amis, nos voisins et notre Église. Bien sûr, ici, dans le contexte, je place ça parce que on prend tous de l'âge, et à quelque part, quand on prend de l'âge, il faut se préparer et il faut le faire correctement. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire du texte aujourd'hui? Première, prions le Seigneur de nous faire la grâce d'être de bons consolateurs. Il nous faut d'abord reconnaître notre insuffisance et nos limites. Nous devons ensuite avoir la bonne attitude, sincérité, sympathie, courage, sagacité, sagesse, bonheur et douceur. Connaissons bien la personne de Dieu, la sagesse de ses voies providentielles, l'exemple de Jésus-Christ, la puissance des Saintes Écritures. Soyons toujours guidés par le Saint-Esprit, qu'on appelle dans les Saintes Écritures le Consolateur suprême. Deuxième chose, sachons voir la main de Dieu dans nos circonstances. Que celles-ci soient heureuses ou pénibles. Elles sont toujours pour notre plus grand bien et nous sont amenées par amour. Ça, c'est, je dirais que c'est une leçon monumentale à apprendre. Ça prend du temps. Pas sûr qu'on comprend ça comme ça, là. C'est l'expérience qui nous amène. On reçoit les circonstances que Dieu nous envoie et 95% du temps, on rue dans les brancards, on ne le reçoit pas comme venant de Dieu, on ne le reçoit pas comme étant un geste d'amour envers nous, et qui est pour notre bien. Souvent, quand on commence à l'apprendre et à reconnaître que quelque chose de difficile nous arrive, et qu'on l'accueille comme venant de la main de Dieu, et qu'on l'accepte avec joie, là, on a fait un grand pas dans la vie chrétienne. Et troisièmement, apprenons à prier convenablement dans nos épreuves, avec ferveur, avec sincérité, avec confiance, avec anticipation d'une réponse, et avec persévérance. Que notre grand Dieu et glorieux Seigneur soit béni pour sa sagesse et son amour dans la conduite de nos voies providentielles. Amen.